Le titre de la prédication ce matin est, je ne l'ai pas exactement, mais « La santé passe par la sainteté ». La bonne santé passe par la sainteté. Et je vais vous poser cette question. Sommes-nous une église en bonne santé? Est-ce que l'église de la rue du Moniteur est-elle en bonne santé spirituelle? Et à cette question, beaucoup d'entre nous, moi le premier, répondrions « Ben oui, c'est évident. La parole de Dieu est fidèlement prêchée chaque dimanche. Nous avons de nombreuses activités, brunch des femmes, groupe de jeunes, réunions de prière, école du dimanche, études bibliques, groupe de maison. Nos rencontres dominicales attirent toujours plus de monde. Et donc, tout semble indiquer que l'Église est en bonne santé spirituelle. Si l'apôtre Paul avait posé la même question à l'Église de Corinthe, voici ce qu'ils auraient répondu avec aplomb, certitude et enthousiasme. Mais bien sûr que oui, nous avons été comblés de tous les dons, en particulier dans la parole et la connaissance. Chez nous, les prédications et les enseignements sont riches, profonds. Les études bibliques, riches, profonds. Il ne nous manque à Corinthe aucun don spirituel. On parle en langue, on prophétise, tout est là. Nos leaders sont prestigieux. Apollos l'éloquent, le grand apôtre Paul, que des figures remarquables du milieu chrétien. Et s'il y a bien une église en excellente santé spirituelle, c'est la nôtre. Et pourtant, voici ce que Paul leur a dit, et c'est ce que nous avons vu ces dernières semaines alors que nous parcourions la lettre ensemble. Ah oui, en bonne santé. J'ai appris qu'il y a des divisions, des querelles, des déchirements en votre sein. J'ai appris que vous délaissez la sagesse de Dieu, sa puissance qui repose sur la faiblesse de la croix, Christ crucifié, mort pour vous attacher à la sagesse des hommes qui repose sur l'éloquence, sur les apparences, sur ce qui est percutant, sur ce qui frappe aux yeux. En bonne santé, vraiment, que dire de ces choses abominables qui se passent en votre sein? Et ces choses abominables, nous allons les voir ensemble dans le chapitre 5, dans quelques instants. Et donc, chers frères et sœurs, je vous repose la question. Notre Église est-elle en bonne santé? Sommes-nous en bonne santé spirituelle? Je vous invite maintenant à lire le chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens. Lisons. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. De ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur ? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger ? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Notre premier point, face au péché, humilité et radicalité. S'il y a bien quelque chose qui frappe chez le Corinthien, lorsqu'on lit l'épître, cette première épître, c'est leur décalage avec la réalité. Depuis des semaines, nous voyons combien ils se croient au sommet spirituellement. Leur église serait, selon eux, la meilleure, la plus forte, la plus impressionnante, la plus saine de toutes. Mais dans les faits, leur perception est en total décalage avec la réalité. En effet, Paul a déjà mis en lumière de nombreux problèmes chez eux. Chapitre 1 et 3, il y a des divisions, des querelles. Fin du chapitre 1 et tout le chapitre 2, les Corinthiens s'attachent à la sagesse humaine. Il y a une obsession pour ce qui frappe aux yeux. Et ce matin, chapitre 5, encore un gros problème, un très gros problème. Et Paul commence ce chapitre ainsi. Il dit « On entend généralement dire » ou encore dans d'autres traductions, c'est « partout on entend dire ». C'est de notoriété publique. Et ce qui se dit partout, dans toute la région, n'est pas la bonne santé spirituelle de l'Église de Corinthe. Non, l'Église de Corinthe est connue pour sa pornéia, pour son immoralité sexuelle. Et il est crucial pour nous de bien comprendre ce terme, pornéia, immoralité sexuelle, parce que nous avons tendance à le limiter à des actes spécifiques, comme l'adultère, l'homosexualité, on le limite à des choses extrêmement graves dans notre esprit, sexuellement parlant. Mais voici une bonne et juste compréhension de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle désigne toute sexualité en dehors du cadre établi par Dieu, c'est-à-dire dans un mariage libre et consenti entre un homme et une femme avec des pratiques qui honorent et plaisent à Dieu. Et donc, toute sexualité qui se trouve en dehors de ce cadre, c'est de la pornéia, c'est de l'immoralité sexuelle. Et cela inclut la masturbation, les pensées impures, le concubinage, les relations hors mariage, le visionnage de contenu pornographique, les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Tout cela, c'est de la pornéia. Tout cela, c'est abominable aux yeux de Dieu. Et à Corinthe, l'immoralité sexuelle dénoncée par Paul prend une forme qui choque même les non-croyants. Pourtant, ces païens, à l'époque, étaient très libéraux, ils étaient très libérés, très ouverts sur la sexualité. Et même eux sont choqués. Paul dit au verset 1, « Une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. » Un cas d'inceste au sein de l'Église de Christ. Et donc, on peut comprendre le scandale, on peut comprendre le choc. C'est profondément choquant. Mais il y a pire et plus choquant que l'inceste. il y a l'attitude de l'Église face à ce péché. Paul dénonce la non-réaction, la totale passivité de l'Église au verset 2. Il dit au verset 2, « Vous êtes enflés d'orgueil. » Comment est-il possible pour l'Église d'ignorer ce péché si évident? Pire encore, s'en réjouir en prétendant être en bonne santé spirituelle. Comment c'est possible? Eh bien, il me semble que le problème des Corinthiens réside dans leur mauvaise manière d'évaluer leur santé spirituelle. Les Corinthiens se fient à la bonté de Dieu manifestée par ses dons spirituels pour édifier l'Église, donc prophétie, parler en langue, connaissance, pour juger de leur état spirituel. Puisque Dieu nous bénit en dons spirituels plus que toutes les autres églises, ça veut dire que nous sommes en bonne santé spirituelle. Chers frères et sœurs, les dons spirituels ne sont pas un signe de bonne santé. C'est simplement le signe que Dieu est éternellement bon. Car la santé spirituelle se mesure à la sainteté. Et Paul explique ce qu'une église en bonne santé aurait dû faire face à un tel péché. Toujours au verset 2, il leur dit « Vous auriez dû prendre le deuil et exclure l'auteur de cet acte. » Au lieu de fanfaronner, les Corinthiens auraient dû se lamenter, s'attrister de leur péché, reconnaître que leur mauvaise manière d'agir était inacceptable. Ils auraient dû se repentir, s'humilier devant Dieu, prendre des mesures radicales en excluant le péché et son auteur. Et Paul montre lui-même que c'est la bonne chose à faire en jugeant en esprit le fautif, bien qu'absent physiquement. Il dit cela au verset 5. Et il leur précise que quand vous vous rassemblerez, livrez cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Cette exclusion est radicale, mais temporaire. Elle vise le salut du fautif, c'est ce que Paul dit à la fin du verset 5, c'est pour qu'il soit sauvé au jour du Seigneur, mais ça vise aussi la protection de la communauté tout entière, et nous le verrons plus tard dans le passage. L'Église de Corinthe aurait dû écouter et appliquer l'enseignement des apôtres en s'appuyant sur les fondements essentiels tels que la foi en Jésus pour le salut, la seigneurie de Christ, la sainteté, l'amour et l'unité. Mais malheureusement, les Corinthiens étaient en décalage avec plusieurs de ces piliers fondamentaux, notamment la sainteté. Et en conséquence, leur Église était loin d'être en bonne santé spirituelle. Maintenant, j'aimerais que nous réfléchissions à nous-mêmes. Sommes-nous en décalage avec la réalité? En lisant cette première épître aux Corinthiens, nous pourrions facilement nous croire en meilleure santé spirituelle. Ces Corinthiens, vraiment mauvais. Querelles, divisions, incestes. Heureusement, ce n'est pas notre cas. Mais soyons honnêtes, il est tentant de se sentir meilleur en se comparant à plus fautif que soi. Je le vois en ce moment avec mes filles. Quand je reprends l'une, l'autre se presse de venir me voir et se justifie en disant « Moi, papa, je suis gentil, je ne vais pas au coin. » Et nous risquons de faire pareil, croyant être en bonne santé spirituellement, simplement parce qu'on se compare à une église qui est malade. Pourtant, grandir spirituellement implique de se comparer à ceux qui marchent mieux que nous, non à ceux qui tombent. Mais quand bien même nous choisissions de nous comparer aux Corinthiens. Sommes-nous en meilleure santé spirituelle qu'eux? Je pose la question. Eh bien, je vais vous dire, pas si sûr. Et voici pourquoi. À l'époque, l'immoralité sexuelle était culturellement largement tolérée dans la société gréco-romaine. Elle était visible, c'était commun, c'était accepté. Et c'était à Corinthe que se trouvait le temple dédié à Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et de la fertilité. Et pour rendre un culte à cette déesse, les habitants de la ville pratiquaient la prostitution sacrée. Et donc c'était quelque chose qui était accepté, qui était commun, ça se voyait. Personne ne se cachait pour faire ces choses. Ce n'était aucunement tabou. Et donc lorsqu'un nouveau converti apportait ses comportements dans l'Église, il était facile à détecter. Et on le voit ici dans cet épître où Paul prend connaissance rapidement du problème, il le diagnostique, donne des directives pour traiter et éradiquer le problème. Et nous savons que ce problème d'inceste, d'immoralité sexuelle, a été traité parce que dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre ne revient pas sur ce problème, ce qui signifie qu'il a été réglé. Mais de nos jours, le problème est différent. En effet, après des siècles de christianisme, aujourd'hui, l'immoralité sexuelle est culturellement condamnée, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps, cela a poussé les personnes à pratiquer ces choses, à pratiquer l'immoralité sexuelle en secret. On ne le voit plus. On ne le sait plus. Et cela s'est accentué avec Internet et l'accès constant au contenu pornographique. L'immoralité sexuelle aujourd'hui est omniprésente, mais invisible. Aujourd'hui, il est très facile de vivre dans l'immoralité sexuelle en secret, caché, loin des regards, et venir à l'église chanter, prier, et se croire, et faire croire qu'on est en bonne santé spirituelle. Notre église est-elle en bonne santé spirituelle? D'un côté, j'ai envie de dire oui, car je vous vois tous en train d'écouter la parole de Dieu attentivement. Je vous ai vu chanter, prier, louer le Seigneur. Mais d'un autre côté, je m'interroge. Qu'en est-il de ces péchés cachés? Qu'en est-il de ces choses que nous faisons dans l'ombre, loin des regards, sans que personne ne le sache. Peu importe le nombre de nos activités, le nombre de nos réunions, le nombre de nos membres, peu importe la bonté de Dieu manifestée envers nous, si le péché est toléré en notre sein, nous ne sommes pas en bonne santé spirituelle. Que devrions-nous faire alors dans un tel contexte où l'immoralité sexuelle reste cachée, invisible? Eh bien, ce qu'il nous faut faire, c'est cultiver trois choses. Comme je l'ai dit à l'époque de Paul, les frères et sœurs, en quelque sorte, nous tombaient dessus pour nous qui avions fauté, parce que c'était possible. L'immoralité sexuelle était visible, évidente, manifeste. Aujourd'hui, nous l'avons vu, c'est différent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est à ceux qui fautent en secret d'aller avouer, confesser leurs péchés pour être repris et restaurés. Mais pour faire cela, il nous faut avoir trois attitudes essentielles. La première est une profonde humilité. Il faut reconnaître son propre péché. Il faut être brisé, profondément attristé par son propre péché. Reconnaître sa pauvreté spirituelle et son besoin urgent d'une aide extérieure. Deuxième chose à cultiver, c'est du courage. Il faut aller trouver un frère si on est un homme. Il faut aller trouver une sœur si on est une femme. Avoir l'audace de confesser son péché et d'accepter d'être discipliné. Et la troisième chose à cultiver, c'est de l'amour. C'est avoir suffisamment d'amour pour vouloir être corrigé. Avoir suffisamment d'amour pour éviter de contaminer le reste de l'Église par son propre péché. Cultiver l'humilité, le courage et l'amour. Et donc, si tu es en lutte avec un péché sexuel invisible, sois humble, prends courage et aime tes frères et sœurs. Va vers un frère ou une sœur dans la foi, confesse ton péché, accepte d'être accompagné, repris, même discipliné, car c'est indispensable pour ton propre salut, parce que au jour du Seigneur, alors tu seras sauvé. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit à la fin du verset 5. Mais c'est aussi pour la bonne santé de l'ensemble de l'Église. Et Paul développe cette deuxième idée dans les versets 6 à 8 que nous allons examiner ensemble maintenant. Et donc, le deuxième point de notre prédication. Dans cette section, Paul continue sur sa lancée. Et son objectif est toujours le même. Briser la fierté des Corinthiens pour les ramener à la réalité et à la sainteté. Et l'apôtre, une deuxième fois encore, au verset 6, dénonce cette fierté déplacée, inappropriée face à cette situation catastrophique. Par cette parole cinglante, début du verset 6, « Vraiment pas de quoi être fier ». Par cette parole, l'apôtre montre clairement que les Corinthiens ne sont pas au sommet spirituellement. Pire encore, il leur fait comprendre qu'ils sont profondément malades. Et Paul souligne cette maladie spirituelle dans le verset 6 en disant « Ne savez-vous pas ?» Une question rhétorique qui en fait veut dire « Vous devriez le savoir ». L'apôtre souligne ici que les Corinthiens ne maîtrisent même pas les bases de la foi chrétienne. Le béaba de la foi chrétienne. Ces vérités fondamentales que tout nouveau croyant devrait connaître, comprendre et appliquer. Et cela nous rappelle ce que l'apôtre avait déjà dit quelques semaines avant. En 1 Corinthiens chapitre 3, il dit « Pour moi, frères et sœurs, ce n'est pas comme à des personnes spirituelles que j'ai pu vous parler, mais comme à des personnes charnelles, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. » Et donc, ce que va faire l'apôtre, là, dans ces versets 6 à 8, c'est leur rappeler les bases de la foi chrétienne, le béaba. Et l'une des bases de la foi chrétienne, ce ne sont pas les dons spirituels, la manifestation de puissance, la prophétie, le parler en langue, mais c'est la sainteté. Et Paul l'explique avec une image que tout le monde comprend à l'époque, celle du levain. À l'époque, pour faire du bon pain, on gardait un morceau de pâte fermentée d'une fournée précédente et cette pâte que l'on gardait, on l'ajoutait à une nouvelle pâte pour faire du pain. Mais si ce levain devenait mauvais, s'il s'était gâté, il contaminait toute la pâte. Et donc le pain n'était plus bon et devait être jeté entièrement. Et Paul compare le péché au levain, verset 6. Il dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Paul est en train de dire que un peu de péché, quelle que soit sa forme, peut contaminer toute l'Église. Et remarquez que Paul ne parle plus seulement de l'immoralité sexuelle, mais il parle maintenant de tout péché, de tous les péchés. Même si c'est le péché sexuel qui est le plus marquant dans ce chapitre. Et vous remarquerez qu'il n'occupe en fait qu'un ou deux versets sur les 13. Et donc le propos de Paul là, c'est pas de mettre une emphase sur l'immoralité sexuelle, non, c'est de mettre l'emphase sur le péché, l'immoralité de manière générale. L'objectif de Paul dans ce chapitre 5, c'est de lutter contre toute forme de péché, contre toute méchanceté dans l'Église. Et donc, pourquoi un peu de péché contamine toute l'Église? Car lorsqu'on laisse entrer un peu de péché dans l'Église, voici ce qui arrive. Les autres pensent, ah ben, si l'inceste est accepté, alors mon petit problème de colère, ça va. Il n'y a pas de problème. On peut ne rien dire, ça va. Et ainsi de suite. Alors, ce qui se passe, c'est que le mal entre dans l'Église, grandit, doucement mais sûrement, et contamine de plus en plus de monde. Et j'ai un exemple concret de cela. Dans une église que je connais très bien, à l'époque, des jeunes ont commencé à sortir avec des copains ou des copines non-croyants. Et ces sorties sont allées en fait beaucoup au-delà de simplement sorties ciné, sorties McDonald's, Quick, bowling. Beaucoup d'entre eux, en fait, ont eu des relations intimes avant le mariage, au sein de l'Église. Et tout le monde le savait, mais personne n'en a parlé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on pensait que ce sont des jeunes, ils apprendront, et il faut que jeunesse se fasse. Mais savez-vous ce qui s'est passé ? Avec le temps, ce silence a encouragé d'autres jeunes à faire pareil. Et cela a eu des conséquences dévastatrices, extrêmement graves, pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble de l'Église. Des années plus tard, il y a eu des conflits, des divisions au sein de l'Église. Au sein de ce groupe de jeunes, beaucoup ont connu des divorces, des vies en désordre. Et la plupart de ces jeunes que je connais personnellement ont quitté la foi chrétienne. Ils ont abandonné l'Église. Et j'ai même appris récemment, il y a 10 jours, par mon frère, que l'un de ces jeunes est à deux doigts de finir à la rue. Après avoir vu sa conjointe la quitter en portant leur fille, il est tombé en dépendance dans la drogue. Ces péchés tolérés ont détruit la vie des membres de l'Église, de certains membres. Ce péché toléré a détruit la sainteté et la santé spirituelle de l'Église. Et donc, Paul, face au péché dans l'Église, est clair. Au verset 7, il dit « Purifiez-vous du vieux levain. Débarrassez-vous de tout péché, de tout comportement méchant que nous avons facilement tendance à justifier ou à excuser. Soyons honnêtes. On dit, c'est ma personnalité, c'est ma culture, c'est plus fort que moi, c'est ma faiblesse, ce sont mes circonstances, c'est ma fatigue. Non, Paul nous dit, purifiez-vous du péché. Ne le justifiez pas, mais purifiez-vous, car Dieu nous a rachetés en Christ. Il nous a unis à Christ. Il nous a purifiés en Christ. Ça, c'est la réalité. Et donc, la réalité pour nous aujourd'hui est celle-là, pour nous tous, en tant que chrétiens unis à Christ, purifiés par lui. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes aujourd'hui une patte nouvelle, avec des pensées nouvelles, des désirs, des sentiments nouveaux, ceux de Christ qui transcendent, dépassent, surpassent les nôtres. Et donc, purifions-nous donc de toute forme de méchanceté en nous appuyant sur ces vérités. Au verset 8, Paul ajoute que la sainteté n'est pas un fardeau, mais une joie, une fête. Renoncer à nos anciennes habitudes, à notre péché, c'est célébrer notre vie nouvelle en Christ. La sainteté, c'est censé être profondément joyeux. Mais si cela nous semble lourd ou difficile, et même parfois triste, eh bien, c'est peut-être que nous n'avons pas encore compris le béaba de la foi chrétienne. Ce que ça signifie vraiment d'être purifié, d'être racheté, d'être uni à Christ. Ce que ça signifie vraiment d'être né de nouveau, d'être une patte nouvelle. Et donc, si se débarrasser du péché, c'est lourd, c'est accablant, c'est triste, si c'est le cas, alors retournons à ses fondements, à ses vérités essentielles. Retournons à Christ, à l'Évangile. Avant de passer à la dernière partie, une question pour nous tous. Quel est le vieux levain que j'apporte avec moi dans l'Église, que j'excuse ou justifie ? Et qui est susceptible de nuire à la santé spirituelle de tous, de toute l'Église, qui est le corps de Christ. Quel est ce vieux levain que j'amène avec moi? Est-ce mon orgueil? Est-ce mon manque d'amour? Est-ce ma méchanceté? Mes pensées immorales? Mon caractère désagréable? Mon manque de douceur? Ma colère. À chacun de nous de l'identifier et de s'en débarrasser. Purifiez-vous. Et je vous rappelle ce que l'apôtre Paul nous a dit quelques chapitres avant. Ne savez-vous pas que vous, l'Église, êtes le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Nous sommes avertis. Notre troisième et dernier point. Face au péché, expulsez la méchanceté. Alors, comment chasser toute forme de méchanceté au sein de l'Église? Eh bien, nous le voyons dans les versets 9 à 13. Et au verset 9 à 11, Paul rappelle aux Corinthiens une exhortation qu'il leur avait adressée dans une lettre précédente qui aujourd'hui est perdue. Et donc la première lettre aux Corinthiens n'est pas vraiment la première lettre aux Corinthiens. Il y a eu une autre lettre avant. Et dans cette lettre disparue, Paul avait demandé aux Corinthiens de ne pas entretenir de relations avec les personnes pratiquant l'immoralité. Nous voyons cela au verset 9. Mais cependant, les Corinthiens avaient mal interprété ces propos. J'imagine parce que ça les arrangeait. Eux pensaient que Paul parlait uniquement des païens et non des membres de l'Église. Et Paul profite de cet épisode d'inceste pour clarifier ses propos et rappeler ce qu'il voulait vraiment dire aux Corinthiens, verset 10. Il dit « Ce n'est pas d'une manière absolue avec tous ceux qui se livrent en ce monde, ni avec tous les gens avides, rapaces ou idolâtres, autrement vous devriez bel et bien sortir du monde. » Et cette pensée de Paul s'aligne parfaitement en fait avec la pensée de Christ, qui demande à chacun de ses disciples de ne pas vivre en dehors du monde, mais dans le monde, parmi les perdus pour leur annoncer la bonne nouvelle qui sauve. Pour autant, sans jamais adopter leur mode de vie. Donc, vivre dans le monde, mais différemment du monde. Et donc, Paul invite les Corinthiens à chasser les attitudes et comportements mondains au sein de l'Église. Et au verset 13, il dit comment le faire. Il dit « Chassez le méchant ». Fin du verset 13, « Chassez le méchant ». Et il nous indique qui est le méchant dans l'Église au verset 11. Le méchant, c'est la personne qui désire toujours plus au détriment des autres. La personne qui met quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu dans sa vie. C'est la personne qui prononce des paroles grossières, qui est calomniateur. C'est la personne qui se laisse aller à boire trop d'alcool. C'est la personne qui veut tout pour soi. Ces personnes-là, nous dit Paul, sont des personnes méchantes. Et ce qu'il faut faire, c'est les expulser, les chasser. Et voilà quelle est notre responsabilité en tant qu'Église. Et expulser, chasser le méchant de l'Église, eh bien, c'est radical. Et c'est assez violent, dans le sens où ça va faire mal. Lorsque vous tombez malade, et j'imagine que beaucoup l'ont été ou le sont actuellement, quel est le moyen que le corps utilise pour expulser les corps étrangers indésirables? C'est par l'éternuement, n'est-ce pas? Et savez-vous à quelle vitesse sont expulsés les corps étrangers lors d'un éternuement? J'ai appris ça là cette semaine. Ils sont expulsés à 160 km/h. Violent, violemment. Et on peut le savoir en entendant juste le son qu'on provoque lorsqu'on éternue. C'est violent et radical. Et il ne faudrait pas s'attendre à moins pour ce qui est de l'expulsion du péché au sein de l'Église. Ça va faire mal. Et ce sera radical. Paul nous dit au verset 11 qu'avec une personne méchante qui persiste dans sa méchanceté, verset 11, « N'ayez pas de relation avec elle. Ne mangez pas, ne prenez pas de café avec elle. Ne la saluez pas. Ne discutez pas avec elle. Faites comme si elle était un corps étranger. » Et Paul nous a précisé que chasser le méchant n'est pas de la méchanceté gratuite. Le but n'est pas de punir ou d'exclure gratuitement, mais de préserver la santé spirituelle de l'Église, de ses membres, et même de la personne qui pêche. Cela vise à amener toute personne pécheresse à la repentance, à prendre conscience de son péché, du tort causé à soi-même, mais aussi à l'ensemble du corps de Christ qu'est l'Église, pour revenir à une attitude et un comportement qui honore Dieu pour la bonne santé de l'Église. Le but final, c'est que tout le monde soit sauvé. Bien sûr, certains vont essayer de nous faire culpabiliser pour cette discipline d'Église que l'on tenterait de mettre en place, mais Paul nous encourage à tenir ferme. Et en fait, c'est Jésus lui-même qui nous encourage et nous soutient dans cette démarche de discipline contre le pécheur. En Matthieu 18, 20, Jésus dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et juste une parenthèse concernant cette parole de Christ. Il me semble que ce passage en Matthieu est souvent mal utilisé, car il ne parle pas textuellement de réunion de prière ou de rassemblement lors d'un culte, mais de réunion pour discipliner. Parce que ce passage s'inscrit en fait dans tout un contexte de discipline ecclésiale. En fait, dans ce passage, Jésus nous rassure en nous disant qu'il sera présent avec nous lorsque nous devrons prendre des décisions difficiles de discipline pour l'Église. Et si le Seigneur lui-même est avec nous dans ce processus difficile de discipline, d'expulser le méchant hors de l'Église, si lui est avec nous, alors nous pouvons le faire avec confiance et dans la paix. Et donc, expulsons le méchant. Sommes-nous en bonne santé spirituelle? Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. Et même si je le pouvais, je m'en garderais. Mais ce que je sais, c'est que si chaque membre cherche à vivre dans la sainteté et obéit à ce que Dieu lui demande, alors oui, ensemble, nous serons une église en bonne santé spirituelle. Et mon désir pour notre Église, et cela devrait être le désir de chacun, n'est pas qu'elle soit reconnue pour sa louange, sa bonne ambiance, sa puissance, toutes ces choses, son côté convivial, bien qu'on veut ça aussi, mais on veut qu'on soit reconnu pour une chose, notre sainteté. Car c'est là que nous saurons que nous sommes en bonne santé spirituelle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole sainte. Merci parce que celle-ci est tout ce dont nous avons besoin pour arriver au salut et pour vivre des vies qui t'honorent et qui te glorifient. Et merci Seigneur parce que cette parole nous fait du bien, elle nous réconforte lorsque nous sommes dans la tristesse, dans le deuil, elle nous encourage lorsque nous avons besoin de force, mais elle nous reprend et nous fait mal aussi lorsque nous nous détournons de tes voies. Et nous te prions Seigneur pour que tu viennes régner dans nos vies, que tu viennes régler toutes ces choses qui peuvent se faire en secret, qui te déshonorent, qui nous font du mal à nous-mêmes et qui font aussi du mal à nos frères et sœurs. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions cultiver des vies d'humilité, de courage et d'amour pour mettre ces choses en pratique. Et Seigneur, tous ensemble, donne-nous de veiller les uns sur les autres. Et si nous voyons des choses qui ne t'honorent pas, donne-nous de pouvoir traiter, régler ces problèmes en expulsant le mal, la méchanceté de ton Église, qui est le corps de Christ que tu as racheté à grand prix. Donne-nous, Seigneur, d'être conscient de toutes ces choses et de persévérer dans la sainteté, en sachant que toi-même, tu es tous les jours avec nous. Amen.